Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU incapable de parler d'une même voix pour dénoncer l'offensive turque en Syrie. Les Américains et les Russes se sont neutralisés ce soir à New York. La correspondance de Loïc Loury. Emmanuel Macron désavoué sur la scène européenne. Sa candidate à la Commission de Bruxelles, Sylvie Goulard, a été recalée par le Parlement européen. Nous en parlerons avec notre invité Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO. Deux auteurs de la Mittel Europa décrochent le prix Nobel de littérature, la polonaise Olga Tokarczuk pour le prix 2018 et l'autrichien Peter Handke pour 2019. Peter Handke, écrivain incontournable et polémique, la correspondance à Vienne d'Isorias. 24 heures après le début de leur offensive en Syrie, les forces turques ont déjà réussi à s'implanter dans les zones convoitées. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les soldats du président Erdogan ont conquis 11 villages situés entre deux villes stratégiques, Ras Al Ain et Tal Abyad. Leur objectif étant de chasser les Kurdes qui contrôlent le nord du pays. L'offensive turque aurait déjà coûté la vie à 29 combattants kurdes et 10 civils d'après un bilan fourni par l'OSDH. À New York, la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'a donné aucun résultat concret ce soir, réunion au cours de laquelle les États-Unis ont tenté de justifier leur politique syrienne. Loïc Loury.
Le retrait américain du théâtre syrien n'est pas un blanc-seing donné à l'armée turque. Ce message, Donald Trump l'avait déjà formulé hier. J'espère, disait-il, que le président turc agira de manière rationnelle et humaine. Dans le cas contraire, menaçait-il, la Turquie paierait un énorme prix économique. Aujourd'hui, à New York, sa parole a été relayée par Kelly Knightcraft, la représentante américaine auprès des Nations Unies. Cela juste après la réunion du Conseil de sécurité.
Si la Turquie ne respecte pas les règles, menace les plus vulnérables et ne garantit pas que Daesh ne se reconstituera pas, il y aura des conséquences.
Mais les Européens, face à cette volonté, en tout cas affichée des Américains de contrôler Ankara, ne sont pas franchement rassurés. Cinq pays, dont la France, avaient pour cette raison appelé à une réunion d'urgence du Conseil. Jürgen Schulz, l'ambassadeur allemand au nom des Européens, s'est ensuite adressé à Ankara.
Nous appelons la Turquie à cesser son intervention militaire unilatérale, car nous ne croyons pas qu'elle résoudra les préoccupations de sécurité de la Turquie.
Mais face à la catastrophe annoncée, le Conseil, une fois encore, est divisé. Washington et Moscou se sont ainsi opposés à toute condamnation commune de l'intervention turque contre les forces kurdes de Syrie.
Loïc Loury, correspondant à New York. À Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois sorti son arme diplomatique favorite face à l'Union européenne, le chantage migratoire. Il a menacé d'envoyer en Europe 3,6 millions de migrants. Si l'Union européenne persiste à présenter son opération militaire en Turquie comme une invasion, conséquence de ces menaces, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis demande ce soir à l'OTAN d'accroître ses patrouilles en mer Égée avec davantage de navires militaires. L'échec est cuisant pour Sylvie Goulard. Le Parlement européen a balayé la candidature de l'ex-ministre des Armées à la Commission de Bruxelles par un score sans appel, 82 voix contre 29. Sylvie Goulard paye sa mise en cause dans deux affaires, les emplois présumés fictifs de son parti, le Modem, et sa fructueuse collaboration à un cercle de réflexion américain, l'Institut Berggruen. Sylvie Goulard qui avait choqué de nombreux eurodéputés en excluant de démissionner automatiquement en cas de mise en examen. Emmanuel Macron n'aura donc pas réussi à imposer sa candidate à Bruxelles. Mais dans sa première réaction, le chef de l'État a pointé la responsabilité de la présidente de la Commission, l'Allemande Ursula von der Leyen.
La présidente von der Leyen m'a dit « Moi, je veux travailler avec Sylvie Goulard. Je sais ce qu'elle vaut. Proposez-moi Sylvie Goulard. » J'ai dit à la présidente von der Leyen « Attention, Sylvie Goulard est une femme d'une grande probité, je la connais. Elle n'a d'ailleurs, je le rappelle, jamais été formellement accusée. Ça fait 2 ans qu'il y a une enquête sur un sujet qui la concerne. Elle n'est même pas mise en examen sur ce sujet, après 2 ans. J'ai dit attention, il y a des polémiques, je connais les gens qui peuvent créer des polémiques. Et donc Ursula von der Leyen m'a dit, bah écoutez, ce que je vais faire, je vais appeler les présidents de groupes parlementaires. Puis elle a appelé la présidente du groupe socialiste, le président du PPE et le président du groupe Renew. Puis elle m'a rappelé, elle m'a dit, c'est bon, ça leur va, Madame Goulard. Moi je ne comprends pas comment, quand la présidente de la commission nommée, qui a une discussion avec les 3 présidents de groupe, se mettre d'accord sur quelque chose, ça peut bouger comme ça. Donc j'ai besoin de comprendre. Donc je vais d'abord demander.
Emmanuel Macron qui s'exprimait en marge de la réunion du Fonds mondial contre le sida à Lyon. Invité de ce journal, Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et à l'INALCO, spécialiste des questions européennes. Bonsoir.
Bonsoir.
Patrick Martin-Jeunier, l'échec de Sylvie Goulard, c'est aussi l'échec d'Emmanuel Macron ?
Ah, je dirais que oui, c'est surtout un échec d'Emmanuel Macron, un gros échec, un revers cinglant pour le président de la République française qui avait soutenu la candidature de Madame Goulard. C'est donc un échec très sévère, d'autant que les votes contre Madame Goulard, c'est 82 contre 29. Donc c'est vraiment tous les parlementaires, sauf les partisans, le groupe Renew, le groupe d'Emmanuel Macron, ont effectivement massivement rejeté la candidature de Sylvie Goulard, ce qui veut dire que les socialistes, le groupe social-démocrate, le groupe PPE de Manfred Weber, qui avait des raisons d'en vouloir à Emmanuel Macron, ont effectivement rejeté massivement, ce qui veut dire qu'elle n'a pas convaincu lors de ces deux auditions. Il y avait plusieurs dizaines de questions qui lui avaient été posées et elle n'a pas réussi à apporter de réponses crédibles aux deux problèmes qui étaient posés. Le problème du salaire de son assistant parlementaire, vous savez qu'elle avait remboursé 45 000 euros à la veille de ses auditions au Parlement européen. Elle n'a pas convaincu sur ce point et elle n'a pas non plus convaincu sur les prestations qu'elle était censée réaliser pour un think tank américain, Bergoglio, pour lequel elle avait touché entre 12 000 et 13 000 euros par mois, alors qu'elle était députée européenne. Nonobstant le principe de la présomption d'innocence, il y avait là un gros risque politique et elle n'a pas réussi à apporter des réponses crédibles.
Et pourtant, Emmanuel Macron semble mettre en cause dans cet échec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui avait insisté pour avoir Sylvie Goulard. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse d'Emmanuel Macron ?
Écoutez, je pense que c'est un peu facile de mettre ça sur le dos de Madame von der Leyen. Vous savez qu'effectivement, Madame von der Leyen était également la candidate d'Emmanuel Macron pour le poste de présidente de la Commission européenne. Et je crois que cette personne, si ce que dit le président de la République est vrai, eh bien je crois que Madame von der Leyen a surestimé ses propres forces. Parce que figurez-vous que cette semaine, mercredi, au Parlement européen, c'est bien une députée du groupe PPE, de Manfred Weber, la présidente de la Commission de contrôle budgétaire, qui s'est livrée à véritable plaidoyer contre Madame Goulard. Donc je pense que le fait de dire qu'on est allé consulter tel ou tel chef de parti et de groupe parlementaire n'a pas suffi. Il y a eu une erreur de jugement, une erreur d'appréciation de la part de, je pense, à la fois d'Emmanuel Macron et de Mme von der Leyen, qui elle-même ne connaissait pas le Parlement européen. Je crois qu'elle a surestimé ses forces car on ne pouvait pas raisonnablement envoyer à la Commission européenne avec un portefeuille très important une personnalité qui avait des doutes quant effectivement à sa probité. Et vous savez que sur ce point, la Commission est très chatouilleuse et qu'on ne peut pas envoyer comme ça quelqu'un qui a des doutes. Un commissaire doit être au-dessus de tout soupçon et force est de constater que même si elle a remboursé 45 000 euros, ce qui veut dire d'ailleurs qu'elle reconnaissait que le Parlement avait subi un préjudice financier, elle est encore aujourd'hui sous le coup d'une enquête de l'Office de lutte antifraude de Bruxelles qui n'a pas encore rendu ses conclusions. Donc il était extrêmement imprudent d'envoyer siéger à la Commission européenne, quelqu'un qui n'avait pas été lavé de tout soupçon.
Est-ce que l'on assiste finalement à une rébellion du Parlement européen qui ne veut plus servir de chambre d'enregistrement face aux chefs d'État et de gouvernement ?
Oui, c'est exactement cela. En effet, je crois que on a considéré le Parlement comme une institution mineure, comme si ce Parlement était un peu comme l'Assemblée nationale en France. Ce Parlement, aujourd'hui, veut montrer qu'il est capable de faire un véritable contrôle politique de la Commission, et il a tout à fait raison. Vous savez qu'il s'est fait plus ou moins imposer Madame von der Leyen comme présidente de la Commission européenne. Elle n'a dû son investiture qu'à 9 voix d'avance, ce qui n'est pas grand-chose. Donc déjà, l'autorité de la présidente est affaiblie. Et il y avait aussi un motif de vengeance contre Emmanuel Macron, car dans ce groupe PPE, il y a Manfred Weber, qui aurait dû être le président de la Commission européenne, et qui a été écarté véritablement, sans ménagement, par Emmanuel Macron, au motif que M. Weber n'était pas compétent. Donc évidemment, il y avait un motif de vengeance. Et je crois qu'aujourd'hui, le Parlement européen, mais au demeurant, Mme Goulard n'est pas la seule à avoir été écartée. Le Parlement a écarté également pour des raisons de conflit d'intérêts le commissaire hongrois, également roumain. Donc, 3 commissaires ont été écartés, ce qui veut bien dire aujourd'hui que le Parlement européen veut avoir un rôle très important à jouer, notamment sur le conflit politique.
Dernière question, Patrick Martin-Jeunier. Est-ce qu'Emmanuel Macron paye finalement une certaine arrogance? C'est un terme qu'on a beaucoup entendu parmi les critiques contre Sylvie Goulard.
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'arrogance de la part de la France, et notamment de la part d'Emmanuel Macron, incontestablement, même si le président de la République a eu raison d'insister sur les valeurs européennes. Je pense qu'il l'a fait d'une façon maladroite, il s'est mis beaucoup de pays à dos, notamment les pays du groupe de Visegrad, dont la Hongrie d'ailleurs, et la Pologne, autant de pays qui d'ailleurs ont voté pour von der Leyen, mais qui n'étaient pas prêts à voter pour la candidate d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron n'a rien fait pour soutenir les candidats hongrois et roumains, et donc il y a une vengeance de la part de ces pays, une certaine arrogance, effectivement, au niveau européen. Et aujourd'hui, manifestement, on fait payer à la France cette trop forte arrogance. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron n'arrive pas à faire avancer, comme il l'aurait souhaité, tous ces dossiers au niveau européen.
Patrick Martin-Jeunier, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le réquisitoire est tombé dans le procès de l'attentat raté de Notre-Dame de Paris en 2016, lorsque plusieurs femmes djihadistes avaient tenté de faire exploser des bonbonnes de gaz près de la cathédrale. L'avocat général de la cour d'assises spéciale a requis aujourd'hui des peines de 25 à 30 ans de réclusion à l'encontre des deux principales accusées, Inès Madani et Ornella Gilligman. Le compte-rendu d'audience d'Antoine Maret.
Ces deux femmes et leurs deux co-accusés sont devenus le visage du djihad au féminin, déclare l'avocat général. Elles ont été le bras armé du groupe État islamique et elles ont montré une détermination sans faille. Les peines de réclusion requises contre Inès Madani et Ornella Gilligman sont assorties d'une période de sûreté des deux tiers. Des peines lourdes demandées, et pourtant, le parquet fait preuve d'une certaine clémence à l'égard d'Inès Madani. Le seul élément qui nous a conduit à ne pas requérir la réclusion criminelle à perpétuité contre elle, c'est son âge, 19 ans au moment des faits, explique le second avocat général. Et il ajoute « Je ne peux pas ne pas avoir d'espoir en l'être humain et Inès Madani doit savoir que la société croit qu'elle est capable d'évoluer. » Contre Sarah Hervouet qui, quelques jours après la tentative d'attentat raté, a poignardé un policier, le parquet requiert 20 ans de réclusion criminelle assorti d'une période de sûreté des deux tiers. Le sang a coulé dans ce dossier et c'est Sarah Hervouet qui en est l'auteur, explique l'avocate générale. Une peine de 20 ans de réclusion assortie d'une période de sûreté des deux tiers est également requise contre Amel Sakaou, celle qui a hébergé Inès Madani et Sarah Hervouet chez elle, peu après l'échec de la tentative d'attentat.
Antoine Maret, depuis la cour d'assises spéciale de Paris, place demain aux plaidoiries de la défense. Le verdict est attendu lundi ou mardi prochain. C'est un monument de la littérature de langue allemande qui a été distingué aujourd'hui à Stockholm. L'Autrichien Peter Handke, prix Nobel de littérature 2019. L'Académie suédoise a salué, je cite, son œuvre influente qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la spécificité de l'expérience humaine. Fin de citation. Peter Handke, c'est le complice de Wim Wenders avec L'angoisse du gardien de but au moment du pénalty, livre et film mythique. Mais c'est aussi le personnage polémique, grand défenseur de la Serbie nationaliste. En Autriche, en tout cas, la nouvelle a suscité la fierté, mais aussi une certaine surprise, Isorias.
Son nom a plusieurs fois été cité pour le prix Nobel de littérature, mais la presse autrichienne semble surprise que Peter Handke le reçoive finalement. D'abord parce qu'une écrivaine autrichienne, Elfriede Jelinek, a reçu la prestigieuse récompense en 2004, il n'y a pas si longtemps, souligne le quotidien Die Presse, mais aussi parce que Peter Handke a maintes fois été critiqué pour ses positions pro-serbes et pour avoir assisté en 2006 aux funérailles de l'ex-président yougoslave Slobodan Milosevic, accusé de crimes contre l'humanité et de génocide. Reste que Peter Handke est l'un des écrivains de langue allemande les plus lus dans le monde et nombreux sont ceux à le célébrer aujourd'hui en Autriche. À commencer par le président de la République, Alexander Van der Bellen, qui a affirmé que le pays devait beaucoup à Peter Handke. Même reconnaissance dans les médias qui saluent son langage poétique incomparable et la richesse incroyable de son œuvre. Un ouvrage rassemblant tous ses écrits a d'ailleurs été publié il y a peu, rappelle la radio ORF, et il fait pas moins de 11 000 pages.
Isorias, correspondante à Vienne, l'Académie suédoise a aussi décerné son Nobel de littérature 2018 ce matin. Il est revenu à la romancière polonaise Olga Tokarczuk, saluée pour son imagination narrative. Retrouvez sur franceculture.fr un dossier complet sur Peter Handke et Olga Tokarczuk. La disparition de Marie-Josée Natt, figure familière des écrans dans les années 60 et 70, actrice d'Élise ou La Vraie Vie. Marie-Josée Natt est morte aujourd'hui à Paris à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie. Le temps demain sera humide au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg et souvent ensoleillé au sud. En cours d'après-midi, une nouvelle perturbation faiblement pluvieuse abordera la Bretagne et les côtes de la Manche. Les températures minimales seront comprises entre 6 et 17 degrés du nord aux régions méditerranéennes. Les maximales sont en hausse de 17 à 23 degrés et même de 26 à 30 degrés en Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.